Voici une traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6408 C11 SHSBC 35 intitulée L'étude, l'évaluation des données. Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 11 août 1964 aux étudiants du Saint-Hilaire Special Briefing Course. Copyright 1964-1982, Elron Hubbard, tout droit mondial de reproduction réservé. Désolé de vous avoir fait attendre, mais c'est la faute de Reg. Nous avons testé les talkie-walkie, que nous n'utiliserons pas, à l'aéroport de Londres. Vous imaginez, employer des talkie-walkie à l'aéroport de Londres avec la tour de contrôle. Nous avons un système qui nous permet de manœuvrer des flashs photographiques à distance au moyen d'un petit talkie-walkie. Pas facile. Nous sommes devenus très habiles maintenant. Je nous entends encore. Attention, photo-choc sur le point d'atterrir sur la piste nord. Quelle est l'ouverture de notre objectif, s'il te plaît? Nous nous sommes bien amusés. Entre le photographe professionnel et l'amateur, la différence est énorme. Il y a un gouffre. Et quand vous êtes professionnel, vous êtes obligé de recourir à toutes sortes de combines extravagantes. Il faut la permission du ministre de l'Aviation, ni plus ni moins, pour pouvoir approcher un avion en Angleterre. Il vous faut montrer un paquet de lettres de créance et de référence, épais comme un jeu de cartes. Le ministère nous a donné la permission d'aller photographier l'arrivée hypothétique d'un étudiant. Donc tout ce que vous avez vu de l'aéroport et de l'Angleterre, eh bien, je vais aller le photographier dans 2 ou 3 semaines pour m'amuser. Je pourrais donner des photos à ceux d'entre vous qui avaient raté leurs photos. Voilà une remarque offensante. Vous savez, je suis en train de vous montrer l'attitude scientologique à adopter avec un scientologue débutant ou inexpérimenté. Bien, quelle est la date? Le 11 août, AD14, Saint-Hilaire Special Briefing Course. Très bien. Nous allons reprendre nos conférences sur le sujet de l'étude. Plus je vous parle de l'étude, meilleures sont vos notes, ce qui est très bien. Voilà, à mon avis, l'une des séries de conférences les plus fructueuses que j'ai données. C'est l'une des séries de conférences qui a produit les résultats les plus extraordinaires et les plus cataclysmiques, si je puis m'exprimer ainsi. Vraiment fabuleux. Donc ce n'est pas pour rien que j'aurais sué sang et eau avec des textes du genre « Vous prenez le bichloride de soude et vous le mettez dans le bichromate et vous obtenez du bisulfite vu qu'il précipite les négatifs, etc. etc. » Je vous rappelle qu'à la fin du printemps, j'avais décidé d'étudier l'étude et de découvrir en quoi consistait l'étude, etc. etc. Plus je parle de l'étude, plus vos notes montent. Le casus belli, dans le domaine de l'étude, c'est cette chose fermement établie, appelée les mots. Mais bien sûr, tous les GPM sont composés de mots. En fait, ils ne se composent pas de mots anglais, ils se composent de significations liées à des masses. Il s'agit de masses qui sont tout à fait capables de démolir quelqu'un. Eh bien, un scientologue n'a absolument aucune raison de se faire du souci. L'électricien est habitué à manipuler 10 000 volts, et le dresseur de lion au cirque pense que ce n'est rien de donner une petite tape sur le museau à un lion. Et je vous ferai remarquer que lorsque les gens voient un électricien manipuler une ligne à haute tension, ils sont horrifiés. Et vous prenez un dresseur de lion, les dresseurs détestent qu'on les appelle dompteurs parce que des lions ne sont jamais domptés ou apprivoisés. Un lion dompté, c'est la dernière chose qu'ils voudraient au monde. Ils veulent des lions sauvages. Donc vous avez ce dresseur qui donne une petite tape sur le museau d'un lion, et le public regarde et fait « Ah !» Mais en fait, un dompteur se sentirait plutôt mal à l'aise s'il n'avait pas quelques-uns de ses gros matous pour faire claquer son fouet, vous savez. C'est toute sa vie. Et le public qui ne connaît rien à ce genre de vie est bien sûr horrifié et complètement abasourdi de voir ce dresseur frayer avec de gros chats dans une cage. Par exemple, Clyde Betty avait coutume de combattre 40 lions et tigres en même temps. Et j'imagine que s'il devait arrêter pendant quelques jours, il se sentirait très très misérable, il s'ennuierait, la vie lui semblerait dénuée d'intérêt. Maintenant, il existe beaucoup d'autres professions et beaucoup d'autres activités. Vous vous demandez peut-être comment un dentiste peut faire pour arracher des dents jour après jour. Fabuleux, non? Pourtant, il en est capable. Vous vous demandez peut-être comment un chirurgien peut faire pour rester là à découper des entrailles et à jeter les déchets à la poubelle, heure après heure, année après année. Comment fait-il? Eh bien, c'est un professionnel qui est familiarisé avec son sujet. Lorsque vous vous êtes bien familiarisé avec un sujet particulier, ce dernier peut paraître extrêmement dangereux et perturbant pour quelqu'un d'autre, mais il ne l'est pas vraiment pour vous. Curieux, non? Et l'on risque d'être considéré comme un surhomme dans tel ou tel domaine particulier. Et c'est ça qu'on exige de vous en scientologie. Je ne parle pas du fait que vous allez être en meilleure condition ou devenir clair ou ôté. Non. Je vous parle simplement d'un type d'approche très fondamental. Pour vous, les mots des GPM, ce sont les lions, le haut voltage, les dangers de la profession avec lesquels vous vivez en scientologie. Les mots. Les mots des GPM. Et ce genre de choses. Maintenant, si vous prenez ces mots, que vous sortez et que vous les jetez à la figure du public, vous verrez des gens devenir verts et se mettre à bégayer. Et puis ils s'effondreront. C'est vrai. Et ils risquent de tomber très malades. Et ainsi de suite. Eh bien, cette personne n'est pas habituée au lion. Et ce genre de personne n'est pas habituée au lion. Elle n'est même pas capable de trouver pourquoi elle se sent si mal. C'est le mystère total. Eh bien, voilà un merveilleux domaine dans lequel être un professionnel. Parce que la vie consiste à vivre, et vivre est étroitement lié à l'esprit. En fait, il n'y aurait même pas d'endroit où vivre, ou de vie, s'il n'y avait pas d'esprit. Vous voyez ? Donc le fait de travailler dans le domaine de l'esprit et du mental présente certains inconvénients, mais cela comporte évidemment bon nombre de choses très positives. Et quand vous commencez à tripoter des GPM, vous savez très bien qu'ils peuvent vous démolir. Vous savez très bien que ce n'est pas quelque chose qu'on tripote avec désinvolture, vous savez très bien ce qu'ils peuvent faire à quelqu'un. Vous voyez quelqu'un sur des béquilles en train de clopiner, il a de l'arthrite avec un grand A, qu'est-ce qu'il a ? Eh bien, il est tout bonnement coincé, quelque part, dans un GPM. Rien de plus. Même s'il s'agit d'un engramme, eh bien, il est maintenu en place par un GPM. Voilà comment ce gars vit, voilà ce qui se passe. Vous avez entendu des gens dire « Quoi qu'il arrive, des mots ne pourront jamais me... » Ah oui. Maintenant, le désavantage du scientologue, au niveau professionnel, c'est qu'il a affaire à des significations et à des masses. Et si vous associez une masse et une signification qui ne vont pas ensemble, ne serait-ce qu'à peu de choses près, vous obtenez un méli-mélo et c'est la catastrophe. La vie est ainsi. Et si vous désirez savoir ce qu'est le comportement humain, quels sont les éléments fondamentaux de l'existence, qu'est-ce qui fait persister la matière, vous avez le physicien qui étudie avec acharnement la conservation de la matière, ou plutôt la conservation de l'énergie. Il étudie la conservation de l'énergie. Il étudie la conservation de l'énergie. Il est en train de s'enterrer. Tôt ou tard, il va tomber sur détruire toute l'énergie ou quelque chose comme ça. Ça va être son interprétation d'un GPM. Et il va construire une bombe atomique ou un truc dans ce genre. Vous voyez, il lui faut faire quelque chose dans ce domaine. Petit à petit, ça deviendra une obsession. Maintenant, le psychiatre et le psychologue travaille énormément, en ce moment, dans un domaine appelé « recherche sur les motivations ». Ce qu'ils appellent « recherche sur les motivations ». Un sujet très intéressant, je recommande à chaque scientologue, et particulièrement aux gens qui font de la promotion dans les organisations, de lire un livre intitulé « Les éléments de persuasion cachés ». C'est un livre très intéressant, bien qu'il essaie de tourner en ridicule cette idée d'éléments de persuasion cachés, entre les lignes, il vous donne une dissertation très approfondie sur les techniques qu'emploient, à l'heure actuelle, les agences de publicité et les gens, dont le travail consiste à toucher le public. Et ces jours-ci, ils engagent des psychiatres, etc., pour mener des recherches sur les motivations et découvrir tout un tas de faits complètement idiots. Et si la plupart de leurs faits sont idiots, c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi les gens sont Ils ne savent pas ce qui fait agir les gens, etc., etc. Mais si un scientologue lit ce livre, et particulièrement un étudiant de Saint-Hilde, un étudiant qui se trouve aux alentours de classe 6, eh bien, réinterprétez tout le bouquin. Ils ont construit une fondation, ils ont écrit une très belle mélodie, mais ils n'ont pas de parole pour cette mélodie. Voyez ? Ils ont cette idée merveilleuse, comme quoi il est peut-être possible d'influencer les gens d'une façon ou d'une autre, mais ils ne savent pas quelle parole mettre sur la musique. Ils sont encore en train de patauger dans leur analyse freudienne et d'essayer de vendre de la lessive en faisant surgir un complexe de libido à l'âge de 3 ans. Et ils essaient de restimuler quelque chose d'une façon ou d'une autre pour vendre leur lessive. Et ils n'ont pas les boutons. Autrement dit, si je puis dire, ils jouent du piano sans touche. Ils arrivent quand même à faire du bruit avec, je ne sais pas comment ils font, mais ils parviennent tant bien que mal à faire du bruit avec. Or, il s'agit de l'une des professions les mieux payées au monde à l'heure actuelle. La publicité et l'étude de marché. C'est l'une des activités les mieux payées au monde aujourd'hui. Et ils déversent des sommes folles dans les poches des psychiatres ces jours-ci pour savoir ce qui fait bouger, ce qui fait agir les gens. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une recherche vraiment fondamentale, elle plane plutôt au niveau de l'école maternelle, mais vous avez ces gars qui essaient de toucher le public, qui essaient de vendre des produits, et ils se sont tournés vers les psychiatres et les psychologues pour qu'ils leur donnent les réponses. Eh bien, ils se sont tournés dans la mauvaise direction, et ça leur retombera probablement dessus. De temps à autre, ils perdent de l'argent et commettent des erreurs. Mais si vous commencez à analyser tout ça, et si vous connaissez vraiment l'esprit et le mental, eh bien vous vous demandez comment il est possible d'avoir des difficultés avec la dissémination. Maintenant, bien sûr, si vous vous serviez de vos connaissances dans le domaine du mental juste pour vendre à quelqu'un des cochons de lait surgelés, ce serait une dégradation de ses connaissances. C'est idiot. C'est comme si vous vous serviez d'une Mercedes pour casser des noix. Donc je ne vous recommande pas ce genre d'activité. Tout ce que je fais, c'est vous indiquer qu'il existe une activité mineure dans le monde aujourd'hui pour laquelle les fabricants déversent d'énormes sommes d'argent. Une activité qui se livre à un matraquage infernal dans les revues hebdomadaires. Vous allumez la télé, et qu'est-ce que vous voyez ? La recherche sur les motivations. Vous ouvrez un magazine, et qu'est-ce que vous voyez ? La recherche sur les motivations. Vous ouvrez un journal et vous lisez une publicité, qu'est-ce que vous voyez ? La recherche sur les motivations. Examinez une campagne électorale. Vous constaterez que les candidats se servent de la recherche sur les motivations. En fait, Eisenhower gagna les élections aux États-Unis et fut élu président grâce au travail des agences de publicité dans le domaine de la recherche sur les motivations. Elles avaient découvert que le pays voulait à tout prix une image de père. Alors, elles lui ont donné une image de père. Et il a bien sûr été élu. En fait, son image de père était plutôt bonne, en admettant que les pères de famille ne fassent rien d'autre que lire des histoires de cow-boys. Toujours est-il que c'est l'image qu'ils ont donnée à Eisenhower. Eh bien, voilà comment le monde tourne. Maintenant, si vous voulez savoir comment faire pour vivre calmement au milieu d'une grosse confusion, tout ce que vous avez à savoir, ce sont les réponses. Les réponses essentielles. Et si vous connaissez les réponses essentielles, cette confusion ne vous inquiétera pas dans 90% des cas, et les 10% qui restent, vous pourrez faire quelque chose pour y remédier. Vous me suivez ? La connaissance est quelque chose que l'on acquiert en étudiant. Maintenant, quand une personne cherche à se renseigner sur ce qui se passe, quand elle cherche à découvrir en quoi consiste le monde, elle se trouve prise dans le piège des mots. Les mots. Les mots sont un piège. La signification. Qu'est-ce que telle chose ? Comment découvrir ce qu'est telle chose ? Eh bien aujourd'hui, vous vous renseignez sur ce quelque chose au moyen des mots. Les informations vous sont transmises par le biais des mots. Vous découvrez telle ou telle chose par l'intermédiaire de mots. Et ces mots sont des pièges. Ils forment les GPM, la structure du mental. Ils font du mental un système presse-bouton. Des boutons sont sans cesse poussés dans le mental. Par exemple, vous lisez « Le chat était noir ». Et si vous vous sentez bizarre, ou si cette phrase vous inspire un sentiment de répulsion, si vous ne savez plus ce que vous faites, voyez, cela vous répugne d'étudier les chats ou d'apprendre quelque chose sur les chats ou quelque chose comme ça. Autrement dit, vous avez rencontré un obstacle. Vous lisez la phrase « Le chat est noir » et vous vous sentez tout chose. Et vous en concluez donc « Je ne dois pas étudier les chats ». En fait, ça n'a rien à voir avec les chats. C'est le mot « noir ». Vous allez presque toujours attribuer vos difficultés en études à la mauvaise partie de la phrase ou à la mauvaise partie du texte, parce que vous ne confrontez pas la vraie difficulté. Et donc vous vous dispersez et vous confrontez autre chose. Maintenant, voici le principe de base que vous devriez connaître à propos de la connaissance et de l'étude. Même si vous ne faites que regarder un arbre pour découvrir quelque chose à propos de cet arbre, vous êtes en train d'étudier un arbre. Peu importe si ça ne dure pas longtemps, l'étude n'a aucun rapport ici avec le fait d'être très très réfléchi et minutieux, etc. Vous regardez cet arbre pour voir de quel genre d'arbre il s'agit, et bien durant ce bref instant, vous avez étudié l'arbre. Voyez-vous ? Autrement dit, vous l'avez observé pour découvrir quelque chose à son sujet. Vous pouvez aussi observer à partir de la page imprimée. Il s'agit d'une observation de seconde main. Et c'est le chemin que suivent presque toutes les connaissances pour nous parvenir. En effet, si on vous demandait à chacun individuellement de redévelopper tout le savoir qui a été développé depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, et cela par vos propres moyens, vous finiriez débile. Je ne veux pas être dur, mais c'est la vérité. Si on vous demandait personnellement et individuellement de développer toutes les connaissances qui existent, en une seule vie, le chemin que vous parcouriez serait extrêmement infime. Comprenez ? Je veux dire, sans avoir personne pour vous transmettre la moindre information, sans avoir à portée de la main des livres, des manuels ou des textes de référence, il vous faudrait vous débrouiller tout seul, élaborer et développer ces connaissances tout seul. Voyez ? C'est vous qui développeriez toutes ces connaissances et il n'existerait aucune observation de seconde main pour vous transmettre des informations. Autrement dit, si vous voulez étudier les volcans, eh bien il va vous falloir trouver un volcan. Et vous accomplirez si peu de choses dans ce projet de redéveloppement de la connaissance que vous mourrez idiot. Ça, je peux vous l'assurer. Ou bien vous affirmerez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la pièce dans laquelle vous avez vécu durant toute cette vie, et vous serez également un crétin fini. Vous me suivez ? Donc les connaissances de seconde main ont de la valeur. Maintenant, bien sûr, une connaissance de première main s'acquiert par l'observation directe et l'expérience. Mais même ici, il est bien mieux de disposer également des fruits de l'observation d'autrui et de l'expérience d'autrui, afin d'en retirer tous les bénéfices. Et c'est la seule façon de préserver et de faire progresser une culture, quelle que soit son importance. Les civilisations illettrées ne survivent pas et ne sont pas d'un niveau très élevé. Les indigènes de la tribu des Bungala, qui vivent dans le Bongo du Sud, soit n'existent plus pour la plupart, soit agitent des drapeaux rouges aujourd'hui et se révoltent contre leur gouvernement central. La vie n'est pas rose pour eux. Eh bien, le soldat britannique qui est allé en Afrique avec son fusil Snyder ou son fusil Lee Enfield pour apporter une meilleure éducation aux indigènes était rarement suivi de gens qui leur auraient appris quelque chose. De plus, il n'apprenait pas vite. Il n'avait pas un niveau d'éducation suffisamment élevé pour assimiler rapidement une culture. Donc, bien sûr, ils peuvent tomber sous le joug du premier venu. Une fois la brèche ouverte, si on ne donne pas immédiatement une éducation à ces gens, et qu'on ne met pas une observation de seconde main à leur disposition, ils deviennent stupides, meurent, s'effondrent, se dégradent. Ils sont écrasés par cette quantité énorme de culture qui vient de l'extérieur. Ils vivaient heureux parmi les arbres Tukaba, vous savez, ils dansaient parmi les arbres Tukaba, et leur centre d'intérêt le plus élevé, c'était la cour de leur hutte. Et ils savaient tout sur les arbres Tukaba, ils savaient que vous ne deviez pas marcher dans les buissons Kibaka parce que vous poseriez le pied sur un serpent Boaja. Voilà en quoi consistait leur observation directe. Dès qu'ils sont touchés par toutes ces nouvelles choses, en particulier les idées abstraites de l'organisation, les idées abstraites de la philosophie politique, les idées vraiment abstraites de l'ingénierie, des choses d'une nature aussi matérielle où la connaissance est étroitement liée au mest, voyez, où la signification est directement et immédiatement applicable à la manipulation de la matière, dès qu'ils sont touchés par ce genre de choses, leur culture s'effondre. Évidemment. Ils ne sont pas capables de fabriquer des fusils Lee Enfield. Ils ne sont pas capables de s'organiser pour former une civilisation démocratique convenable. Peu importe combien de prêts on jette entre les pattes de leurs politiciens cupides. On peut les berner, en faire des esclaves, et les dégrader. Que s'est-il passé? Eh bien, ils ont été submergés par cette culture immense qu'on leur a présentée. Voici cette grande civilisation, cette civilisation brillante, voyez, elle est truffée de cadillacs, de jets, de rasoirs électriques et de toutes sortes de choses extraordinaires. Et ces indigènes regardent ce monde matériel et animé. Ils voient des gens qui ont conquis leur milieu, au point où ils peuvent vivre en toute quiétude et faire tout un tas de choses. Ils voient une jeune fille qui, en pressant quelques boutons, peut contrôler 125 chevaux, comme si elle n'avait fait que ça toute sa vie. Autrement dit, elle sait conduire une voiture. Et ces illettrés se retrouvent soudain avec tous ces miracles, avec toutes ces choses. Ils ne connaissent pas les paroles. Ils ont la chanson devant eux, mais ils n'arrivent pas à la chanter. Et ils sont submergés. Boum ! Ils s'effondrent sur le champ. Et ils battent immédiatement en retraite. Quelqu'un du pays reçoit une éducation complète à Moscou et on lui dit... Tes frères là-bas sont plutôt incultes, et si tu presses ce bouton-ci et ce bouton-là et tel autre bouton, eh bien ces boutons réagiront et feront soudain tout sauter, et nous pourrons alors nous emparer du pays et nous procurer tout le jute dont nous avons besoin. Je veux dire, la nature éthique et spirituelle du communisme est très intéressante, vous savez. Ils n'ont plus de jute. Et ils mettent donc leur mécanisme politique en branle pour se procurer du jute. Et s'ils s'intéressent à l'Afrique du Sud, c'est uniquement parce qu'ils ont besoin de diamants et qu'ils veulent de l'or. C'est très spirituel. Ils aiment l'humanité pour tout ce qu'ils peuvent lui extirper. Et ils poussent leur chansonnette avec un manque de scrupules inouï. Mais c'est surtout parce que les gens ne connaissent pas les paroles. Jetez un coup d'œil au vocabulaire communiste. C'est un vocabulaire très intéressant, très astucieux. La technologie politique des communistes est élaborée au millimètre près. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils savent parler à telle ou telle personne, ils savent discuter avec quelqu'un, ils savent faire la synthèse de telle ou telle chose, et ils connaissent le contrôle parlementaire dans une petite réunion. On leur a appris à faire tout un tas de choses, et ils savent s'y prendre pour qu'une motion se retrouve en bas de la pile, et qu'on n'en entende plus jamais parler, et pour qu'une motion qu'ils veulent faire connaître soit entendue. On le leur a appris très soigneusement, voyez. C'est de la technologie, uniquement de la technologie. Et on leur apprend tout ça avec des mots. Ces gens n'ont pas participé à la révolution de 1917, on leur a enseigné, transmis toute la technologie avec des mots. Depuis cette époque-là. Tout comme je vous transmets des informations et des idées au moyen de mots. Mais tout ce qu'ils enseignaient était de seconde main. C'était de l'ouï-dire. Et ça marche très bien pour eux. Ils sont en train de conquérir le monde. Je vois des gens dans les gouvernements occidentaux qui restent là, les mains dans les poches, et qui ne comprennent pas ce qui se passe. On a l'impression de voir un gros taureau, très fort, en train de se faire dévorer par une horde de petits roquets. Et ce taureau sec, un petit chien, ne peut rien lui faire. Et donc il essaie de les ignorer. Il essaie de poursuivre sa route, il essaie d'accomplir telle ou telle chose. Et il va soudain se trouver à terre, avec la gorge déchiquetée. Eh bien, il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de mijoter. Et il est bien au-dessus de ça. Quelque chose comme ça, oui. Il y a toutes sortes d'attitudes face à cette situation. Il ne connaît pas la technologie communiste. Et c'est pourquoi il est vaincu par la technologie communiste. Intéressant, non, que cette technologie soit transmise par bouche à oreille. Elle est enseignée. On ne l'apprend pas par observation directe. Mais elle peut être enseignée par les communistes entraînés, au moyen de l'observation directe. Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les peuples illettrés qui se font écraser. C'est toujours comme ça. C'est le gars qui est ignorant, les gens qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas, qui se retrouvent à la poubelle. Une civilisation meurt quand elle accumule des choses qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas, qu'elle ignore, et quand elle accumule des échecs à comprendre la situation. Elle peut aussi retomber dans un océan de clichés dépassés. Par exemple, eh bien les barbares entrent toujours par la frontière nord, et ils rentrent chez eux à l'époque des moissons. Et une fois, ils ne sont pas rentrés chez eux à l'époque des moissons, et ce fut la fin de Rome. À l'époque, Rome ne connaissait pas le sujet des illettrés, des barbares. Elle ne s'était pas rendue compte que sa population était décadente. Les Romains ne savaient pas que pour être libre, il ne suffisait pas de connaître uniquement les derniers crus. Pour être libre, un peuple doit pratiquement tout savoir. Il doit être sur le qui-vive, il doit être éveillé et vigilant. Vous signez votre arrêt de mort le jour où vous vous calez dans votre fauteuil et où vous décidez que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur tout ce qui existe et que vous n'avez donc plus aucune raison d'observer quoi que ce soit. Maintenant, entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire inutile d'observer parce que je sais tout et impossible d'observer parce que je ne connais pas les mots, il existe un juste milieu qui rend la vie vivable. Vous comprenez ce que sont ces deux extrêmes maintenant. Le premier, c'est « Je sais tout ce qu'il y a à savoir, je n'ai plus besoin d'observer quoi que ce soit, inutile pour moi de faire l'expérience, de quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, de regarder quoi que ce soit, car je sais tout ce qu'il y a à savoir. » Eh bien voilà qui serait le produit d'une civilisation ou d'un individu en train d'agoniser. Et l'autre extrême, c'est « Je ne connais aucun de ces mots, je ne comprends rien à ce qui se passe autour de moi. » Et cela mène la personne très rapidement à la mort et au déclin. Voyez. Donc, ce qu'il faut, c'est connaître les mots et rester sur le qui-vive. Voilà la devise que l'on peut tirer de tout cela. Et vous constaterez qu'on est tout le temps en train d'élaborer une nouvelle technologie quelque part. Eh bien, soyez suffisamment curieux pour vous renseigner à son sujet. Restez sur le qui-vive. Ne soyez jamais satisfait de votre savoir, et vous survivrez très bien. Cela s'applique tout particulièrement à quelqu'un qui parvient à une position éminente ou importante, à quelqu'un qui parvient à un point où il est au-dessus de l'homme de la rue. Il a tendance à devenir très suffisant. Par exemple, un gars vit avec les indigènes du Buranda, et il sait lire, et eux ne savent pas. Eh bien, il se sent très supérieur, si bien qu'il ne prend même pas la peine de lire. Vous voyez ? Eh bien, le seul danger qu'encourent les scientologues, c'est de devenir stupides en partant du principe qu'ils n'ont plus besoin d'observer, d'appliquer, d'être sur le qui-vive. Maintenant, vous voulez savoir la différence entre l'individu qui réussit et celui qui ne réussit pas ? C'est tout simplement que le premier est capable de comprendre et de faire, et que le deuxième ne comprend pas, ou ne... Il y a deux façons de ne pas comprendre, comme je viens de vous le dire. L'une consiste à partir du principe que vous savez tout, donc pas la peine d'observer. Ça, c'est la première méthode. Et l'autre consiste tout simplement à ne pas connaître les mots. Il y a ces deux extrêmes. Donc d'un côté, l'individu ne comprend pas, et il laisse tomber. Et de l'autre côté, il pense tout comprendre, et il ne prend donc pas la peine d'observer. Eh bien, lorsque ces deux choses sont réunies chez une même personne, elle va essuyer des échecs. Cet individu va se casser la figure. Alors qui donc ne se cassera pas la figure? Eh bien, celui qui observe, comprend et fait. Celui qui est capable de comprendre, d'observer et de faire. Maintenant, étant donné que l'observation est dans la plupart des cas une observation de seconde main, eh bien, elle sera parfaitement valide quand elle s'accompagnera de compréhension. Sa particularité, c'est qu'elle exige la compréhension. Moins l'observation est directe, plus la compréhension doit intervenir. Autrement dit, plus l'observation est indirecte, plus vous devez comprendre. Lorsque l'observation est indirecte, la compréhension doit augmenter. Si vous observez un arbre indirectement, vous avez sacrément intérêt à très bien comprendre cet arbre. En fait, beaucoup mieux, chose étrange, que si vous étiez devant lui en train de l'observer. Donc la compréhension remplace la masse. Et vous trouvez dans l'ARC la solution à la compréhension. Compréhension égale ARC. En étude, la compréhension remplace la masse. Bon, reprenons cela. Si vous n'avez pas d'arbre à observer et qu'on vous parle d'un arbre, eh bien vous avez sacrément intérêt à comprendre ce qu'on vous dit. Sinon votre observation de l'arbre va être erronée. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit à propos de l'arbre, ou si vous ne comprenez pas la façon dont on vous transmet les informations concernant l'arbre, vous ne comprendrez pas cet arbre, et vous vous serez privé de la masse, vu que les informations vous ont été transmises par un intermédiaire. Vous me suivez? Ce sont des données très complexes que je vous fournis ici, mais elles sont très utiles. Si vous n'avez pas d'arbre à regarder, si vous étudiez les arbres en passant par un intermédiaire, vous avez sacrément intérêt à comprendre cet intermédiaire. Maintenant, il y a deux choses que vous devez comprendre à propos de ce qu'on vous dit, ou de ce que vous lisez, ou à propos de votre observation de seconde main. Voyez, il peut aussi y avoir une observation de seconde main après coup, à cause du facteur temps. Comprenez, par exemple, vous dites « Il a dû y avoir un arbre ici parce qu'il y a une souche. » Ou bien « Il va y avoir un arbre ici parce qu'il y a un pied. » Votre compréhension peut aussi aller dans le passé et dans le futur. Elle peut provenir soit de l'observation directe, soit de l'observation indirecte. Soit vous êtes là en train de regarder l'arbre, soit quelqu'un vous parle de l'arbre. En fait, il existe plusieurs types de compréhension. Mais notre propos n'est pas pour le moment de voir combien il existe de types de compréhension. Je vous mets simplement en garde contre ce fait qui est lié à l'étude, et c'est la seule chose que j'essaie vraiment de vous faire comprendre, le reste n'est que fioriture. Le sujet tout entier est très intéressant, mais voici ce que vous devez retenir. Si vous n'observez pas quelque chose directement, si vous lisez un livre sur les arbres, comprenez, si vous ne vous livrez pas à une observation directe, alors votre compréhension doit être supérieure à celle qui serait exigée de vous si vous observiez directement. Elle doit être meilleure. Sinon, adieu les arbres. Eh bien voilà quelque chose de fort intéressant parce que les difficultés liées à une observation de seconde main sont innombrables. Vous avez quatre hommes qui essaient de décrire un éléphant, quatre hommes avec les yeux bandés qui palpent un éléphant et qui essaient de décrire cet éléphant. Je ne me souviens plus très bien du vieil adage. Et ces quatre sages vous racontent tout sur l'éléphant, ils ne l'observaient pas vu qu'ils avaient les yeux bandés, et ils se sont lancés dans les dissertations les plus extravagantes concernant cet éléphant. Donc, il nous faut prendre conscience que notre compréhension, quand nous nous livrons à une observation de seconde main, c'est-à-dire quand nous étudions en passant par un intermédiaire, notre compréhension doit inclure une évaluation du bien fondé des informations qu'on nous transmet. Vous me suivez ? Il nous faut comprendre qu'il s'agit de bonnes ou de mauvaises informations. Il faut comprendre si les données sont vraies ou incorrectes. En d'autres termes, nous devons être capables d'évaluer si les informations transmises sont vraies. La compréhension, donc, doit inclure ce facteur. Et c'est là où la majorité des êtres conscients, je ne parle pas que de l'homme, il y a d'autres êtres conscients, c'est là où la majorité des êtres conscients se cassent le nez. C'est là où ils se mélangent les crayons, c'est là où ils ont des difficultés de tous les diables. Je vais vous en donner un exemple merveilleux. Il y a des gens un peu partout aujourd'hui qui pensent que le domaine du mental est entre de bonnes mains. À l'âge de 3 ans, ce petit garçon a piqué une crise à propos de quelque chose, il est tombé malade, et c'est pour ça qu'il est dans un asile de fous, et les docteurs sont parfaitement compris le problème, et tout le monde a compris le problème, oui, on est en train de résoudre le problème. Eh bien, non seulement nous en sommes au point dans cette civilisation où l'on dit « nous savons », mais on dit aussi « il y en a d'autres qui savent, donc pas la peine de savoir ». Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Quel genre d'apathie est-ce là ? Ce n'est plus la peine de savoir, il y en a d'autres qui s'en chargent à notre place. Il y a des autorités en la matière qui s'en chargent pour nous. Eisenhower lui-même l'a dit. Il s'appuyait toujours sur une autorité. Sa meilleure source d'information était toujours une autorité en la matière et il ne faisait jamais rien sans consulter une autorité. Ce qui fait qu'il n'avait jamais besoin de savoir quoi que ce soit. Il n'avait même pas d'unité de communication pour le tenir au courant des crises nationales qui se déclenchaient pendant qu'il était quelque part en train de jouer au golf. Cet homme n'a jamais eu la moindre ligne d'information. Sa politique nationale, il la trouvait dans le magazine Newsweek. C'est vrai, il en était arrivé au point où il considérait les journalistes comme les experts à consulter. Bon, je veux bien que les journalistes soient des gens très capables, et qu'ils croient pouvoir tout résoudre en une minute, si on s'en remet à eux. Mais ça semble plutôt bizarre de prendre la politique prônée par les journalistes et d'en faire la politique nationale. Rien ne dit que ces journalistes n'essaient pas de vendre de la lessive. Voyez, peut-être qu'il y a de la recherche sur les motivations là-dedans. Eisenhower ne pouvait pas vraiment faire confiance à ces informations. Donc, dans votre compréhension, il y a ce que vous comprenez. Est-ce que la source de vos données dit la vérité ou non ? La chose que vous essayez de comprendre est-elle vraie ou fausse ? Par conséquent, l'étude doit inclure une évaluation de la justesse des informations qu'on vous donne. Vous devez avoir une idée de leur justesse. Et c'est une expérience en soi. Vous dites : eh bien, ce gars me dit ce qui, selon lui, est vrai, et si jamais il cesse de croire que c'est vrai, ou s'il trouve que la vérité est autre, il me le dira. Quelque chose comme ça. Vous dites, très bien, voici cette source d'information, et c'est une bonne source d'information, et il y a cette autre source d'information qui tient absolument à me faire avaler ces quelques données particulières, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses, mais il continuera de m'en parler parce qu'il tient à avoir raison. Chose comme ça, voyez. Par exemple, je viens d'étudier 3 manuels rédigés par un professeur de l'Université de Columbia, qui, j'en suis sûr, n'a jamais touché à une pellicule couleur de sa vie. Et il a rédigé ses textes sur la photo couleur. Il m'a fallu étudier ses livres, il m'a fallu les connaître parce que j'allais passer un examen dessus. J'ai pris un nombre incalculable de photos couleur. Mais ici, je me trouvais dans une situation où je devais étudier quelque chose en vue d'un examen. et je l'ai compris. J'ai compris que je devais étudier en vue d'une bonne note à l'examen. Voyez la subtilité ici. Voyez le genre d'étude ici. Et j'ai aussi fini par comprendre que ce gars aimait frimer. Il adorait frimer. Il introduisait des mots techniques hyper compliqués, qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire, au milieu d'une phrase où il n'aurait pas dû se trouver. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vous démonte. Au milieu d'une phrase, vous tombez sur un terme comme « coupleur coloré ». Il dit, je cite, « Je vais maintenant introduire un nouveau terme, coupleur coloré, que j'expliquerai plus loin. » Il ne l'a jamais expliqué. Vous le cherchez dans le dictionnaire de photographie, ne trouvez pas, n'y est pas. Vous cherchez partout et vous ne le trouvez pas. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous allonger et attendre que la mort survienne? Non. Vous devez comprendre la chose suivante. Si personne ne définit ce mot nulle part, c'est que ce crétin ne savait pas de quoi il parlait. Bon, peut-être que quelqu'un définit ce terme quelque part, mais comprenez que vous n'êtes pas obligé de le comprendre pour poursuivre votre lecture. Eh bien, voilà quelque chose de très intéressant. Étant donné que, si vous allez au-delà de quelque chose que vous ne comprenez pas, vous savez que vous allez avoir des ennuis. Mais l'étude, ça consiste en partie à connaître la technologie de l'étude et à savoir que si vous commencez à avoir des maux de tête pendant le reste de la page, c'est parce que vous ne compreniez pas ce mot. Comprenez ? Autrement dit, votre compréhension de la compréhension peut devenir très subtile. Vous pouvez devenir extrêmement astucieux. Vous lisez un livre sur l'ingénierie au temps de l'Égypte ancienne, qui a été rédigé par un ingénieur contemporain, lequel est aussi conférencier à l'Institut de technologie du Massachusetts, et aurait dû être recalé à l'examen d'anglais, ne sait pas écrire. Peut-être sait-il construire des ponts, mais il ne sait pas écrire. Et s'il enseigne à l'Institut de technologie du Massachusetts, c'est qu'il ne sait pas non plus construire des ponts. Quoi qu'il en soit, vous avez ce gars et vous voulez apprendre quelque chose sur la construction des ponts au temps de l'Égypte ancienne, oui. Et le livre est truffé de mots qui se rapportent à l'effort de torsion, au travail et au gauchissement. Enfer et damnation. Et puis, quand il veut vraiment être clair, il vous balance soudain 4 paragraphes d'intégrale bien solides, sans vous expliquer à quoi les lettres qu'il emploie dans ses calculs intégraux se rapportent. J'ai un livre sur les reproductions couleurs en haut. C'est un anglais qui l'a écrit. Génial. Vous avez carrément des équations de calcul infinitésimal, mais c'est censé expliquer quelque chose. Bien sûr, ça ne m'a pas inquiété que je n'y comprenne rien. J'ai simplement ri au nez de l'auteur. Autrement dit, je n'étais pas obsédé par la chose au point de ne pas pouvoir sauter ce livre, et j'en savais suffisamment sur le sujet de l'étude pour savoir que si jamais j'avais des problèmes pour avoir omis de lire ce livre, eh bien je pouvais toujours revenir en arrière et ouvrir le livre pour résoudre ce problème. En d'autres termes, je pouvais passer au travers de cette rangée de baïonnettes. Comprenez ? Eh bien voilà l'habileté dont vous pouvez faire preuve quand vous étudiez. Vous pouvez aller jusque-là. Très bien. Bon. Voilà en fait un élément du domaine de l'étude qui est d'un niveau vraiment très élevé. C'est un peu comme si je vous parlais de quelque chose de niveau universitaire avant de vous parler de quelque chose du niveau maternel. Mais c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller quand on étudie. Vous pouvez devenir intelligent au point de lire une dissertation d'un conférencier de l'Institut de technologie du Massachusetts, avec toute la panoplie des termes d'ingénierie, voyez, une dissertation sur les ponts de l'Égypte ancienne, sans regarder le moindre de ces maudits mots techniques dans le dictionnaire, lire la dissertation jusqu'au bout, quand même y survivre, et avoir appris quelque chose sur les ponts par-dessus le marché. Là, vous avez fait preuve d'intelligence. Les dernières éditions de l'Encyclopédie Britannica requièrent que vous sachiez pratiquer cet art très consommé, parce qu'elles sont uniquement composées de textes pompeux destinés aux professionnels. Les architectes paysagistes ont tellement critiqué leurs articles consacrés à l'architecture paysagère qu'on a maintenant inclus un article professionnel sur l'architecture paysagère. Personne ne peut le comprendre, mis à part un architecte paysagiste. Et un architecte paysagiste n'ira jamais consulter l'Encyclopédie Britannica pour se renseigner sur le sujet. Et il en va ainsi avec presque toutes leurs dissertations hyper professionnelles. Ils ont changé le style de cette encyclopédie. Le style moderne consiste à être incompréhensible et à dire qu'il y a d'autres gens qui connaissent le sujet. À essayer d'impressionner les gens et à ne traiter qu'un quart du sujet, et puis finalement à dire « si vous n'êtes pas un expert, vous n'êtes rien. Il y a d'autres experts comme nous, et nous sommes tous parfaits, etc. etc. » Une vraie salade. En fait, ce n'est rien d'autre que de la décadence. Je me sers de l'édition de 1890 de l'Encyclopédie Britannica. Lorsque vous lisez un article sur l'architecture paysagère dans la vieille édition de 1890, vous voyez qu'il a été écrit pour des gens qui ne connaissaient pas leur vocabulaire. Voyez, vous y trouvez ce que vous cherchez. Mais dans les éditions ultérieures, c'est impossible. Bientôt, cette édition de 1890 va être si dépassée qu'elle ne sera plus d'aucune utilité, et alors je n'aurai plus d'encyclopédie. Il me faudra prendre des mesures désespérées à ce moment-là, il me faudra la remplacer par une énorme bibliothèque. Ah, ça y est, je sais, Quentin a tout un tas de livres, et je collectionnerai ceux-là. Ça y est, j'ai résolu le problème. Il se procure toutes sortes de manuels, du genre le livre d'électronique du petit garçon, tu sais, le livre de telle et telle chose pour petit garçon. Et vous ouvrez ces livres et vous y trouvez le calcul des intégrales simplifiées pour les enfants de 6 ans. En fait, c'est d'un niveau beaucoup trop élevé pour des enfants de son âge. Je ne sais pas qui a pu avoir l'idée de faire ce genre de livre, en tout cas, Quentin se débrouille très bien avec. Histoire de fou. Ils ont cette tendance, comme quoi c'est tout à fait acceptable de simplifier les choses pour les enfants afin qu'ils puissent comprendre. Donc, je vais me monter une bibliothèque de manuels pour enfants, comme ça je serai équipé. C'est ça que je vais faire. Peut-être que les enfants ne peuvent pas les comprendre, mais moi je pourrais. Quoi qu'il en soit, les sources d'information doivent toutes être compréhensibles. Et les mots constituent la structure de tout domaine spécialisé ou technique. On se sert de mots spéciaux pour des observations spéciales. Et quand un spécialiste se livre à des observations spéciales dans un domaine spécialisé, ça ne lui pose aucun problème. Mais lorsque vous effleurez un domaine pendant un bref instant, et que vous vous heurtez à un vocabulaire spécialisé, vous êtes immédiatement perdu. Maintenant, cela vous permet immédiatement de repérer l'étudiant en scientologie qui n'est pas du tout sérieux. L'une des premières choses dont il se plaint, c'est la nomenclature. Eh bien franchement, nous avons moins de vocabulaire que nous aurions dû en avoir pour un domaine spécialisé. Comme personne ne comprenait rien au mental et à l'esprit, comment vouliez-vous qu'ils aient un vocabulaire? Ils n'avaient pas de vocabulaire pour le mental et l'esprit, et si nous avions utilisé leur vocabulaire minable, nous aurions tout compris de travers, vu que leurs mots voulaient dire autre chose. Donc vous avez ce Zig qui commence à se plaindre de notre vocabulaire. Eh bien nous savons immédiatement que ce n'est pas un étudiant en scientologie sérieux. C'est la première chose que nous savons sur cette personne. Elle n'étudie pas la scientologie sérieusement. Nous avons affaire à un dilettante. Il ne veut pas se mouiller, veut ramasser quelques miettes. Vous avez reconnu la bête, maintenant ? Ramasser quelques miettes. Il ne veut absolument pas de la nomenclature. En effet, ça demande énormément de travail d'apprendre la nomenclature. La nomenclature implique une compréhension spécialisée. Et si vous ne possédez pas cette compréhension spécialisée, vous ne comprendrez jamais la technologie. Maintenant, il y a une différence entre savoir quelque chose et être un pro. Une différence énorme. Et il y a beaucoup de gars aujourd'hui qui font croire qu'ils savent beaucoup de choses dans un domaine, alors que, chose bizarre, ils ne le connaissent même pas, ne serait-ce que vaguement. Mais c'est une espèce de mode que d'être un dilettante, qui a tendance moderne. Par exemple, qu'est-ce qu'un docteur en médecine dans le domaine du mental, sinon un dilettante? Et pas qu'un peu. Son éducation est à peine superficielle dans ce domaine. Et ils ont un de ces culots. Ils assistent à une conférence de 6 heures dans un hôpital le long de la Tamise, ici, comme je l'ai déjà mentionné. Et voilà toute leur éducation dans le domaine du mental et de l'esprit. Mais parce qu'ils ont une licence de praticien, ça leur donne carte blanche dans le domaine du mental. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Ça se passe comme ça. Donc, la société dans son ensemble est devenue si dispersée qu'elle ne voit aucun inconvénient à qualifier d'autorité quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Parce que voilà une autorité dans le domaine du mental. Quelqu'un à qui on a enseigné quelque chose sur le sujet pendant 6 heures. C'est ça qu'ils essaient de si bien cacher. Et c'est la raison pour laquelle ils nous ont assaisonnés pendant tant d'années en disant que nous n'avions aucune formation, etc. En fait, en une semaine, un étudiant d'académie, n'importe où dans le monde, en apprenait plus sur le mental et sur l'esprit durant chaque heure de cette semaine qu'un médecin en avait appris tout au long de sa carrière. En une semaine. Vous vous rendez compte du culot de ces dadais nous dire à nous que nous ne sommes pas éduqués dans le domaine du mental? Nous sommes pratiquement les seuls à avoir une formation dans le domaine du mental. Maintenant, il y a des gens qui sont formés dans le domaine de la viande ou des neurones, comme en psychologie ou en chirurgie du cerveau ou quelque chose comme ça. Mais ils ne sont pas éduqués dans le domaine du mental. Ils sont éduqués dans le domaine de la viande. Je veux bien leur accorder que ce sont des spécialistes de la viande. Là, d'accord. Quelqu'un reçoit une balle dans la tête, ils peuvent probablement la retirer. Là, d'accord. Mais n'allons pas prétendre que nous connaissons le mental maintenant sous prétexte que nous sommes capables d'extraire une balle du crâne de quelqu'un. Parce que, au départ, la balle n'est pas entrée dans son mental, elle est entrée dans son crâne. Vous voyez ? Il fait une légère différence du point de vue nomenclature. Eh bien, ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a divers niveaux auxquels on peut aborder un sujet. Vous pouvez l'aborder comme un dilettante. « Oh, mais je sais tout sur la peinture. J'ai suivi un cours de critique artistique au lycée pendant un semestre. Le professeur nous montrait des lithographies sur des morceaux de carton. Je suis devenu capable de reconnaître Rembrandt presque à tous les coups. Je suis devenu très bon en critique artistique. J'en connais donc un bon bout sur le sujet de l'art. » Eh bien, en quoi son éducation a-t-elle consisté? 1, 2, 3 heures par semaine, peut-être? Je ne sais pas, moi. Et qu'est-ce qu'un semestre? 16 semaines, quelque chose comme ça, ce qui nous donne un total de 50 ou 60 heures, 50 ou 60 heures pendant lesquelles il a regardé des tableaux. Et maintenant, c'est un spécialiste de l'art. Bon. Évidemment, il est mieux informé que l'homme de la rue, qui n'a jamais été éduqué dans le sujet. Il est mieux informé. Mais, chose intéressante, cette personne se met maintenant en tête qu'elle connaît le sujet alors qu'elle n'y connaît strictement rien. Ça lui donne une attitude curieuse et très dangereuse par rapport à toute connaissance qu'elle rencontrera dans le futur. Cette attitude lui donne une fausse compréhension. Elle pense connaître le sujet maintenant. En fait, elle connaît la nomenclature des tableaux. Elle ne connaît rien à l'art. On ne lui a jamais rien appris sur l'art. C'est la nomenclature des tableaux qu'il connaît. Bien que j'ai mentionné le temps, ce n'est pas vraiment le temps consacré à un sujet qui vous apporte la connaissance de ce sujet. C'est le sérieux avec lequel vous l'abordez. Combien voulez-vous en savoir? Est-ce que vous voulez savoir juste ce qu'il faut pour pouvoir en parler, comme c'était communément le cas avec les jeunes filles qui faisaient leur début dans la société à Park Avenue, mais elles étaient capables de mener des discussions sur l'art? Mignon, non? Si pendant la soirée de leur début en société, quelqu'un leur disait « vous ressemblez à une madone », eh bien elle savait qu'on ne lui parlait pas forcément religion. Elle connaissait l'art. Oui. Très bien. Pénétrons un peu plus dans le domaine de l'art. La personne veut-elle aborder le sujet sérieusement? Veut-elle comprendre suffisamment le sujet pour ne pas avoir l'air stupide? Ou bien désire-t-elle en comprendre suffisamment pour pouvoir faire quelque chose avec? est-ce qu'elle veut savoir comment appliquer l'art à la décoration d'une maison? C'est-à-dire, désire-t-elle savoir comment choisir, assembler et pendre des tableaux? Est-ce qu'on fait avec ces tableaux? Elle peut aussi emprunter une autre direction. Par exemple, un gars désire connaître l'art parce que l'inflation menace le monde. Et l'inflation menace. Vous pouvez acheter des terres, mais c'est difficile à déplacer. Et vous pouvez acheter de l'or, si vous arrivez à en trouver, si vous n'êtes pas citoyen américain. Et le prix de cet or augmentera tandis que l'inflation frappe la société. Ou bien vous pouvez acheter des œuvres d'art. L'art fait l'objet d'énormes transactions dans les milieux où l'on n'y connaît rien à l'art, si ce n'est que c'est un bon investissement. Vous seriez stupéfait de voir l'ampleur du commerce des œuvres d'art. Eh bien, est-ce que ce genre de personne veut en connaître suffisamment sur l'art pour savoir si les experts la roulent? Voyez, le genre de connaissances qu'il voudrait acquérir, il lui faudrait s'y connaître suffisamment en art pour savoir qui est un expert et qui ne l'est pas, de façon à ne pas se faire berner. Sinon, elle y laisserait sa chemise. Ou bien, désirez-vous en savoir suffisamment sur l'art pour entrer dans la profession et, par exemple, enseigner la critique artistique? Il vous faudrait alors, allons un peu plus loin, en savoir davantage sur l'art, n'est-ce pas? Nous arrivons ici au niveau d'enseignement inférieur. Ou bien désirons-nous en savoir suffisamment sur l'art pour prendre un fusain et un morceau de papier et, si nous avons du talent, dessiner un vase avec un narcisse. Nous voilà ici revenus au point de départ, parce que n'importe quel enfant à la maternelle essaie de dessiner un vase avec un narcisse. Nous revoilà dans le domaine du faire. Je vous ferai remarquer que le petit enfant à la maternelle n'y arrive presque jamais. Il vous dessine des choses absolument dingues, qui sont censées être un vase, etc. Mais ces enfants ont ce qu'on appelle un don artistique. Ou bien ils ont ceci ou cela. Il n'y a rien de plus facile à détruire, parce que ce don ne s'appuie pas sur la connaissance ou la compréhension. Ce don, ils le perdent. Il leur glissera entre les doigts, si jamais il leur arrive de dessiner quelque chose. Très facile de leur faire subir des échecs. Un tétan est très créatif par nature, et il se sert de moyens d'expression qu'il connaît mal. Bien. Disons que vous vous y remettez, que vous prenez un fusain, une feuille de papier blanc et que vous vous asseyez pour dessiner un vase. C'est maintenant que votre éducation commence. Vous savez que si vous changez la position de votre papier et de votre tête, pendant que vous dessinez, vous changez la proportion de votre vase. Eh bien voilà quelque chose qu'il faut savoir, n'est-ce pas? Autrement dit, vous êtes très près du vase, et puis vous le dessinez pendant un petit moment. Vous dessinez, disons, le haut du vase, vous le dessinez grand, et puis vous vous renversez dans votre chaise pour vous relaxer, et vous dessinez le bas du vase. Ce qui vous donne un petit bas. Le haut du vase est grand et le pied est petit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous, rien ne vous choque. Eh bien, c'est là que votre éducation commence. Tiens ta tête tranquille. Je regarde à partir d'un certain point et la distance entre ce point et l'objet joue un rôle dans ce que je fais ici. Sur cette feuille de papier. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Vous venez de vous engager sur une longue route, et en fait, dès ce moment, vous êtes en voie de devenir un professionnel. Même si vous ne le faisiez que pour vous amuser, vous seriez quand même en voie de devenir un pro. Qu'est-ce que vous allez probablement apprendre ensuite ? Eh bien, vous allez probablement apprendre que si vous dessinez quelque chose tel que vous le voyez, de la taille que vous le voyez, c'est simple comme bonjour. Mais si vous essayez de le dessiner plus petit ou plus grand, c'est une autre histoire. Si vous dessinez quelque chose de la taille que vous le voyez, si vous faites le dessin d'un vase et que ce dessin est de la même dimension que le vase sur la table, C'est d'une simplicité enfantine. Mais comment vous y prenez-vous? Eh bien, ne changez pas la position de la feuille ou du bloc par rapport à la table. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la plupart des gens n'arrivent pas à dessiner des natures mortes pour des raisons techniques très intéressantes. Ils essaient de dessiner quelque chose de plus petit. Ils essaient de dessiner un grand vase petit. Ou ils essaient de dessiner un petit vase grand. Et leur dessin est disproportionné. Et ils regardent un grand vase et essaient de le dessiner petit. Et bien sûr, ils n'arrivent pas à trouver la proportion car la dimension est incorrecte au départ, ce qui les induit en erreur. Ils ne savent pas qu'il y a un moyen facile de s'en sortir. Mon Dieu, ça demande toutes sortes d'actions mécaniques et de calculs compliqués de prendre un grand vase et d'en faire une miniature. Allons, allons. C'est en train de vous compliquer l'existence, alors que le problème est enfantin. Vous mettez votre vase là-bas, et vous placez votre feuille ici, de façon à ce qu'elle soit de la même dimension que le vase. Puis vous prenez votre fusain et vous dessinez les lignes du vase selon la dimension que vous voyez, d'où vous êtes placé. Vous ne bougez pas la tête, vous ne bougez pas votre bloc, et vous ne bougez pas votre vase. Et vous vous mettez au travail. Scrunch, scrunch, vous ajoutez un ou deux reflets, et voilà. Et si vous n'avez pas la tremblotte, vous vous retrouverez avec un beau croquis de vase. Tout ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il existe ces petits fragments de technologie. Voyez ? Eh bien, vous êtes maintenant en voie de devenir un pro. Donc vous pourriez dire que des études qui aboutissent uniquement à la compréhension ne sont pas sans valeur. C'est ce genre d'études qui compose, en grande partie, la culture de notre société. Je veux dire par là une étude dénuée d'action. Vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit avec. Vous n'allez rien faire avec. C'est quelque chose de chouette, sans plus. Quelque chose d'intéressant. Et c'est comme ça qu'on conçoit une grosse partie de notre culture contemporaine. C'est agréable de posséder ce genre de connaissances et vous devez en posséder beaucoup. Par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir comment construire une automobile pour connaître les automobiles. Mais vous avez sacrément intérêt à vous y connaître en réparation automobile avant de payer quelqu'un pour qu'il répare des automobiles. Vous devez avoir une compréhension qui vous empêchera de vous faire truander et d'acheter une Mona Lisa sous prétexte que Jeannot en achetait une hier. Voyez ? Donc dans la vie, vous pouvez comprendre beaucoup de choses que vous n'avez jamais l'intention d'appliquer. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais n'en prenez pas l'habitude. Si vous vous lancez dans quelque chose, lancez-vous pour de bon. Ne permettez pas qu'un étudiant, parlons un peu de scientologie pendant un instant, ne permettez pas à quelqu'un venu pour faire un cours de PE de rester là sans vouloir se mouiller. Vous constaterez que ce genre de personne va tenir des réunions et parler interminablement de la scientologie, voyez ? Elle serait incapable de vous donner la définition d'un engramme, même avec un revolver braqué sur elle, mais elle parlera inlassablement de la scientologie. En fait, il y a des groupes un peu partout qui ne font que ça. Ils ne disent jamais, ils n'accomplissent jamais la moindre action, ils ne connaissent pas le sujet. Ils s'y intéressent, et tout. C'est très bien, c'est parfaitement en ordre, mais ne les laissez jamais avec l'idée qu'ils connaissent le sujet. Ce serait cruel. Ils ne le connaissent pas. Et ils sombrent dans la confusion si vous les laissez croire qu'en s'y prenant comme ci ou comme ça, ils finiront par tout savoir. Et c'est à ce moment-là que l'éducation d'une personne commence à se détraquer. En effet, dans quel piège est-elle tombée ? Elle est simplement tombée dans le piège du « je sais tout sur le sujet, continuez sans moi ». Eh bien non, elle ne sait pas tout sur le sujet. Elle ne sait pas à quel niveau de compréhension vous êtes parvenu. Mon Dieu, vous avez peiné et sué, vous avez étudié d'arrache-pied, vous avez creusé, vous avez compris pas mal de choses, et vous savez tout ce qu'il y a à apprendre, et vous avez ce personnage qui dit « Eh bien moi, je... » etc. Si vous suiviez certains de ces raisonnements, vous seriez fasciné. Certains de ces raisonnements, certaines de ces déclarations, sa façon d'appliquer le sujet, vous feraient pratiquement mourir de rire. Parce que vous n'auriez jamais imaginé qu'on puisse interpréter les choses de travers à ce point-là. C'est sans espoir. Par exemple, quelqu'un va dire « Eh bien, j'ai calmé le chien, et vous savez, je me suis servi de l'editing scientologique, j'ai mis une raclée. » Comment diable en est-il arrivé là? Et ça peut être aussi dingue que ça. Mais laissez croire à cette personne maintenant qu'elle sait tout du sujet et qu'il est donc inutile pour elle de l'aborder directement et sérieusement afin d'accomplir quelque chose, eh bien ce serait se montrer très très cruel avec cette personne, parce qu'elle resterait sur un échec. Vous avez ce vaste sujet qui, si elle l'appliquait correctement, lui apporterait des résultats. Et elle arriverait alors à quelque chose et pourrait s'en servir. Mais si vous la laissez croire qu'elle sait tout du sujet, alors qu'elle ne sait rien du tout, vous la laissez évidemment tomber dans l'autre catégorie. Et il est tout aussi cruel de la mettre dans une position où elle croit qu'elle ne pourra pas comprendre le sujet parce qu'il est si vaste et si difficile. En effet, vous avez alors artificiellement créé les deux raisons pour lesquelles un individu ou une civilisation périt. Vous l'avez mis dans un état où, non seulement il est illettré, mais il le restera. Bien sûr, il n'y a qu'un spécialiste qui saurait ça, et je ne vois pas pourquoi tu me demandes la définition d'un mot comme ça, parce que de toute façon, il ne s'applique pas à ce que tu fais. Tout ça, c'est très difficile, tu sais. Je ne me sers jamais de ce genre d'approche. Si un gars arrive et me pose une question sur quelque chose, avec agressivité, je ne peux pas garantir comment je vais lui répondre. Ça dépendra de mon humeur du moment. Si jamais je me sens d'humeur espiègle, il risque de partir avec un mal de crâne. Mais si quelqu'un me pose une question et qu'il veut vraiment savoir quelque chose, alors là, bien sûr, vous me connaissez, je lui réponds tout de suite. De mon mieux. Bing. Même si je n'ai pas réellement espoir qu'il comprenne vraiment ce que je lui dis, je fais quand même tout ce que je peux pour lui donner des explications qui, je l'espère, l'aideront à en savoir ou à en comprendre davantage. Je fais toujours quelque chose pour ce genre de personnes. Si quelqu'un me demande simplement des informations, c'est ça que je fais d'habitude. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui me demande de l'aide, alors là, je lui donne toujours quelque chose à appliquer. Je ne me contente pas de lui fournir quelques renseignements ou un aperçu de la chose, je lui donne également quelque chose à appliquer. Toujours. Et vous seriez surpris de voir l'efficacité de ce genre d'approche. Bien sûr, si on vous demande quelque chose avec agressivité ou méchanceté, eh bien ouvrez la trappe. Ça m'est égal, ce que vous faites avec ce genre d'individu, personne ne vous oblige à être poli. Ne transigez pas avec vos propres lignes de communication. Le seul cas où je suis plongé dans l'embarras, ou bien où quelqu'un serait plongé dans l'embarras, c'est quand une personne me pose une question idiote, qui paraît hostile, alors qu'elle voulait vraiment se renseigner, et qu'elle était tout à fait sérieuse. Vous vous retrouvez immédiatement dans cette position où vous avez été très méchant et malveillant, alors que la personne n'avait aucune intention de l'être. Il arrive parfois que vous ne reconnaissiez pas ce genre de personne. Très facile de ne pas la reconnaître. Mais pour en revenir au faire, eh bien, le faire requiert beaucoup, beaucoup plus de compréhension que d'observation. Le faire exige une compréhension énorme. Et lorsque vous appliquez un sujet pour la première fois, vos résultats sont parfois très décevants. Votre compréhension n'était pas à la hauteur de ce que vous faisiez, voyez. Et la leçon que vous devriez en tirer, c'est qu'il vous faut mieux le comprendre pour pouvoir le faire. Et la leçon que vous ne devez pas en tirer, c'est que c'est trop difficile. Mais il y a certains sujets où vous pourriez tirer une autre leçon qui est « De toute façon, ça n'a jamais marché ». Chose étrange, je pense que cela s'applique uniquement au niveau supérieur de la super-éducation. Au niveau supérieur de la super-éducation, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On espère qu'elles vont marcher. Et on donne ça à apprendre aux étudiants. Ces choses n'ont jamais été censées marcher, elles ne mènent à aucun résultat. Cela semble plutôt singulier, mais c'est vrai. C'est comme si on faisait des équations de calcul intégral aujourd'hui pour des hélices d'avion ou des fouets de cocher, et qu'on dessinait péniblement tous les contours et toutes les courbes des pales d'une hélice ou bien toutes les courbes d'un fouet de cocher, au moyen du calcul intégral. Pourquoi faire une chose aussi stupide? Pourquoi, par exemple, apprendre le faire extrêmement compliqué de quelque activité très ésotérique dont on ne se sert plus depuis 3 siècles? Eh bien, parfois, ça ne marche pas du tout. Quelquefois, personne n'a jamais fait ça. Ça aussi, ça doit entrer dans vos calculs lorsque vous vous trouvez au niveau supérieur d'éducation. Peut-être que personne n'a jamais fait cette chose. Peut-être que c'est trop ardu. Peut-être que ce n'est pas trop ardu, mais tout bonnement inexistant. Vous voyez ? Peut-être que ça n'existe pas, le calcul intégral de la courbe d'un fouet de cocher. Vous savez ? Les choses pourraient aller aussi loin que ça, être aussi stupides que ça. Et ce genre de choses doit être partie intégrante de votre compréhension du sujet de l'étude. Où allez-vous avec ce que vous étudiez ? Maintenant, si vous étudiez un sujet tout en appliquant le faire, vous devez progresser par gradient. Ma première conférence sur le sujet traitait des gradients. Et vous constaterez que la première fois qu'un individu se casse le nez avec le faire, c'est juste après, un gradient trop élevé. Je vous parlerai dans une conférence ultérieure de la façon d'appliquer ce principe du gradient trop élevé à l'auditine. Très intéressant. Mais le gradient où l'individu se casse le nez est celui qui vient après le gradient qu'il n'avait pas compris. Et l'individu pense que c'est le gradient d'après qu'il n'a pas compris. Ce que vous devez faire, c'est donner à la personne une série de fers qui suivent un gradient, une série de fers qu'elle puisse effectuer et réussir. Et en scientologie, vous avez une chose plutôt merveilleuse, appelée l'assist par le toucher, et il fonctionne si bien que certaines personnes en restent là, alors qu'il ne s'agit que d'un petit niveau de fer qui, lorsque vous l'appliquez, vous donne confiance et vous permet d'aborder des niveaux de fer plus élevés. C'est un peu comme si on avait inventé un landau de trop bonne qualité. Vous savez, ce landau est trop bon et vous allez parfois avoir du mal à faire passer les gens à l'étape suivante. Mais la confiance et la compréhension vont de pair avec le faire. Donc le faire n'est rien d'autre qu'une méthode pour parvenir à la compréhension. Non seulement le faire permet d'accomplir quelque chose, mais il permet aussi de comprendre. Le faire est une méthode pour parvenir à la compréhension. Et si vous êtes bloqué quand vous étudiez quelque chose, eh bien mettez la chose en pratique. Plutôt intéressant comme principe, non ? J'en sais quelque chose, je viens d'étudier 3 livres qui parlent des pellicules couleurs de jadis. 3 livres sur la photographie en couleur qui, bien qu'étant rédigés par une institution, sont depuis longtemps dépassés. Ils sont tombés en désuétude, et il ne subsiste pas grand-chose, à l'heure actuelle, de ce qui est décrit dans ces livres. Et ils ont été écrits par un professeur de l'université de Columbia qui n'a probablement jamais fait de photos. Et la plupart des directives qu'il donne sont tirées des brochures publiées par les fabricants de pellicules de l'époque. Et la seule chose qu'ils avaient en vue, c'est un résultat heureux qui ne poserait aucun problème à personne. Ce qu'on peut dire de ces livres, c'est qu'ils donnent une approche théorique extrêmement intéressante, qui est absolument vitale pour la compréhension du sujet, et qu'ils passent ensuite, inexplicablement, à une série de fers dont on ne se sert plus et qui n'ont aucun rapport. Ce n'est peut-être pas le méli-mélo le plus inextricable du monde, mais c'en est pas loin. Une vraie salade. D'un côté, vous aviez une technologie fondamentale vitale, une technologie historique fondamentale, une synthèse d'éléments fondamentaux, une technologie chimique fondamentale, et toutes ces choses sont non seulement vraies maintenant, mais elles le resteront jusqu'à la fin des temps, dans ce sujet particulier. Il s'agit des bases, des fondements, et ainsi de suite. Eh bien, je les ai assimilées, bien que ce soit un professeur qui me les ait enseignées. Et puis, soudain, vous tombez sur des types de pellicules dont vous ne vous servirez jamais. Et il vous faut connaître tous ces extraits de brochures les concernant. C'est plutôt sinistre, étant donné que j'ai appris dès le départ que les directives d'un fabricant pour l'emploi d'une pellicule, et surtout d'une pellicule couleur, eh bien ce n'est pas quelque chose à mettre entre les mains des gens. les jeter à la poubelle, voyez. Elles ne sont d'aucune utilité. Vous pouvez les balancer. D'abord, le fabricant n'est pas celui qui se sert de la pellicule. C'est celui qui la vend. Il n'est pas seulement fabricant, mais aussi vendeur. Donc il présente sa marchandise d'une façon attrayante. Il dit que la pellicule est d'une sensibilité extraordinaire, alors que ce n'est pas le cas. Il dit que la pellicule ne fait pas telle chose, alors qu'elle le fait. Et j'ai dû étudier tout ce machin, alors qu'il n'avait aucun rapport. D'abord, comment se fait-il que l'auteur ait inclus tout cela dans un livre ? Il savait que la photo couleur est un domaine qui évolue. Et il évolue à une telle vitesse qu'exiger d'une personne, sans mettre le livre à jour, qu'elle sache tout sur l'autochrome, on n'emploie plus l'autochrome depuis 1920. Et à l'époque, l'autochrome ne vous donnait même pas de photos. Qui a entendu parler de l'autochrome ? Bon, c'est bien de savoir que ce genre de pellicule a existé, de connaître le principe sur lequel elle repose, mais se mettre à digresser sur le diaphragme et le réglage de l'objectif lorsqu'on a une pellicule autochrome, allons, un peu de sérieux. Quel diaphragme et quel réglage emploie-t-on avec une pellicule autochrome ? Alors qu'il faut probablement un appareil photo dont on ne se sert même plus. Donc, ce n'est rien d'autre que du charabia pompeux, pas vrai ? Et ce fait doit faire partie de votre compréhension, et vous devez, d'une façon ou d'une autre, étudier tout cela jusqu'au bout, et en sortir vivant, en ne retenant que la technologie de base et les fondements du sujet, sans pour autant vous laisser bouleverser par la confusion de données qui fait suite à ces fondements, des données qui sont maintenant dépassées. Or, vous êtes tous confrontés à ce genre de choses, tout simplement parce que la scientologie évolue. Je viens d'en faire l'expérience de la façon la plus extraordinaire qui soit. Le troisième de ces livres était consacré à la façon de tirer des épreuves couleurs, et je sais que de toute façon, je ne mettrai jamais les pieds dans une chambre noire pour faire des tirages en couleurs, voyez. Je veux dire, qui aimerait perdre son temps de cette manière? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui aiment bien perdre leur temps de cette façon, et j'en suis heureux, parce qu'ils vont pouvoir faire tout le boulot à ma place. Tout ce que j'ai besoin de savoir dans ce domaine, eh bien, c'est de savoir ce que j'ai besoin de savoir. Je n'ai ni le temps, ni l'envie de passer 40 ou 50 heures sur une épreuve de galerie d'exposition. J'en ai ni le temps, ni l'envie. Qui ferait ce genre de choses? Eh bien, l'un de ces spécialistes, il serait très heureux de faire ce genre de travail, voyez. Et tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si ce gars sait, oui ou non, ce qu'il fait. Il s'agit ici, je reviens là-dessus, de comprendre l'utilité que vont avoir pour moi les données étudiées. De comprendre ce que je vais faire avec ces données, de comprendre leur valeur et d'évaluer leur justesse. Il s'agit de comprendre ce que je peux en tirer et comment les employer ou les appliquer correctement. Et si vous étudiez le sujet pour pouvoir en discuter dans des salons, vous l'étudierez d'une façon complètement différente. Si vous étudiez l'art pour alimenter des conversations de salon, et non dans un but commercial, je vous assure que la chose à faire, c'est de vous procurer un catalogue publié il y a très très longtemps, un catalogue qui énumère tous les peintres à l'époque de Van Eyck, ou quelque chose comme ça, tous les peintres contemporains de Van Eyck, et les œuvres pour lesquelles ils ont été remarqués, et puis vous les apprenez par cœur, mot pour mot, péniblement, laborieusement, comme si vous appreniez les dialogues d'une pièce dans un groupe de théâtre amateur. Vous allez laisser tout le monde baba dans les conversations de salon. Quelqu'un parle des peintres du XVIIe siècle, et vous dites « Comme Van der Dobbin. » Ils disent « Qui ça ?» Vous dites « Oui, Van der Dobbin. » Autrement dit, vous pouvez les battre à plate couture, les enterrer. Après tout, les toiles de Obema étaient bien trop bleues. Et tout le monde fait « Oh, il s'y connaît. » Quoi qu'il en soit, ce genre d'absurdité vient quand même se ranger dans la rubrique « À quoi vont vous servir ces données ?» Combien vous faut-il en savoir dans un sujet donné ? Et bien sûr, quelques-uns de mes professeurs de guerre anti-sous-marin m'ont enseigné la construction. La construction, Incroyable, mais vrai. C'était la guerre, je n'avais pas le temps de construire quoi que ce soit. J'ai essayé de leur expliquer. Ils m'ont enseigné la construction d'un QCB-1, d'un ASDIC, qui est un appareil électronique de détection sous-marine par ultrasons. Voici comment on construit un QCB-1. Heureusement, la salle de cours était très agréable et bien chauffée. On m'avait envoyé dans le sud de la Floride pour suivre un petit stage sur ce genre d'appareil. Et c'est ça l'une des choses qu'ils m'ont apprise. Ça m'a permis de faire une cure de sommeil. Parce que je savais qu'au beau milieu du Pacifique, avec des sous-marins japonais partout, je n'allais pas construire l'un de ces engins. Tout ce qu'il me faudrait savoir, c'est comment m'en servir, et au pire, comment le réparer. Et aussi, quand il était en état de marche, et quand il était hors service. Je me suis figuré que c'était à peu près tout ce que j'aurais besoin de savoir, une fois que je serais en pleine action. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir au sujet de ces appareils. Et j'ai donc pu dormir à point fermé. L'évaluation de ce que vous voulez faire avec les données, la façon de les étudier, la direction que prennent ces données, etc., etc., eh bien tout cela est partie intégrante du sujet de l'étude. Et si ces choses ne sont pas incluses dans le domaine de l'étude, les données ne vous serviront à rien, et vous risquez de devenir très stupide, d'être frappé d'horreur, et de rester coincé sur tout un tas de mots et de choses qui vous arrêtent et vous bouleversent, et que vous ne comprenez pas. Et vous serez alors en proie à l'obsession de, ouvrez les guillemets, devoir comprendre tout ce que je lis à la perfection, sinon je vais rester bloqué. Car, vous l'avez appris, si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, vous allez avoir mal à la tête une demi-page plus loin. Eh bien, vous devez aussi inclure cette idée. Après avoir lu une demi-page de plus et vous être récolté un mal de crâne, vous devez maintenant avoir l'intelligence de savoir qu'il y avait quelque chose avant, et vous devez trouver ce que c'était, le localiser et l'éclaircir. Dites, oui, c'est un mot que je ne connais pas. Et poursuivez votre lecture. Autrement dit, pour étudier, vous devez bien posséder la technologie de l'étude, sinon les données que vous recevez ne vous serviront pas à grand-chose. Eh bien, je vous ai surtout parlé théorie au cours de cette conférence. Cependant, toute cette théorie est tout à fait applicable, et vous pouvez l'appliquer à ce que vous faites en ce moment. Comme vous avez obtenu de meilleures notes après chacune de ces conférences sur l'étude, eh bien, j'attends de vous que vous en obteniez de meilleures encore. Merci beaucoup.